Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des causeries du management que l'Université de La Réunion vous propose avec le professeur Alain Cucchi.
Bonjour.
Bonjour. Pour une série sur le stress et le technostress, donc c'est le deuxième numéro de cette série que nous allons donc développer aujourd'hui. Vous avez la possibilité, n'oubliez pas, de vous abonner eh bien, sur les réseaux sociaux, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, de façon à être au courant des émissions à venir. Alors, Alain Cucchi, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons déjà eu un premier numéro où nous avons abordé les questions de stress et de technostress. Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois, et puis nous déroulerons la suite de l'émission sur la question des individus et des organisations, et surtout ce qu'il est possible de faire pour améliorer ou du moins diminuer les impacts ou les stresseurs ou les facteurs de technostress, aussi bien dans l'organisation que à titre individuel au niveau du comportement.
Tout à fait. Donc d'abord, je voulais dire merci, merci de m'accueillir. Je voulais dire bonjour à tous nos auditeurs. Donc la dernière fois, dans le premier opus, nous avons vu rapidement un petit peu un modèle qui explicitait les facteurs de technostress, notamment qui articulait deux dimensions, les éléments qui étaient liés à la technologie, par exemple la complexité de la technologie ou la fiabilité des technologies, qui sont des éléments qui favorisent ou qui développent le stress. Et puis des éléments qui sont plus liés aux usages, qui étaient liés finalement la technologie quand on l'utilise dans un contexte professionnel, ça va développer un certain nombre de phénomènes, comme par exemple potentiellement une charge de travail supplémentaire, comme le fait de se sentir surveillé. Donc tous ces éléments-là qui sont plus liés aux usages des technologies font que ça va avoir une influence positive sur le stress et le technostress, puisqu'on parlera plus particulièrement du technostress. Et puis nous avions vu également que cette notion de stress était plus une notion de réponse, d'adaptation à un élément qui vient nous stresser, qui vient nous, entre guillemets, nous agresser. Et c'est un comportement normal, c'est un comportement tout à fait naturel de réaction et d'adaptation à un élément extérieur qui vient nous agresser. Voilà un petit peu ce que nous avons vu la dernière fois.
Voilà, le stress qui est effectivement un phénomène normal chez l'être humain, c'est-à-dire face à une sollicitation, on a besoin de stress pour réagir, par exemple, dans une situation dangereuse, mais on peut aussi développer des niveaux de stress pathologiques qui peuvent amener à l'effondrement ou burn-out
Burnout,
dans
oui, tout
certains
à fait,
cas,
oui.
ce que vous avez abordé largement la fois dernière. Alors, vous avez présenté un modèle, justement, qui fait le lien entre les technologies, les caractéristiques des technologies, les facteurs de stress et le stress, la dernière fois, un modèle d'Ayagari de 2011 qui aborde l'ensemble de ces sujets-là. Alors, ce modèle-là, qu'est-ce qui fait que ce modèle-là serait peut-être un petit peu hors sol ou un petit peu, peut-être pas complètement utilisable pour les managers, par exemple, dans le
Oui.
quotidien, pour mettre en œuvre des solutions de compensation qui permettraient d'éviter ces éléments de stress ou de facteurs de stress?
Alors tout à fait, en fait, nous avons présenté la dernière fois le modèle de Ayagari, qui est un modèle qui est très connu en système d'information pour expliquer le technostress, et qui est à la fois qui a des inconvénients et qui a des avantages. Son avantage principal, c'est la clarté, c'est-à-dire qu'on voit clairement quelles sont les causes, quels sont les effets, quels sont les liens qu'on peut avoir entre des causes et des effets. Les causes étant les facteurs de technostress, ce que les auteurs appellent technostressors, et puis l'effet sur le stress ou la tension. La difficulté, c'est que ces modèles-là, à mon sens, sont simplistes, c'est-à-dire qu'ils sont. Qui viennent d'une approche qu'on pourrait qualifier, nous en tant que Français, on est quand même sensibilisés à cela, une approche cartésienne, c'est-à-dire les longues chaînes de cause à effet, où on voit clairement il y a des causes, il y a des effets, il y a toute cause où on va retrouver les mêmes effets. Ça, ce sont les hypothèses de base de ce genre de modèle. Or, quand on fonctionne dans cette logique-là, on fonctionne un peu comme si on était dans un système fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'émergence. Donc on devrait avoir tout le temps les mêmes causes et les mêmes effets. Et les reproches qu'on peut faire à ce modèle-là, c'est un reproche tout relatif, hein, il faut quand même voir quelle est la qualité de la publication, c'est que finalement on ne prend pas en cause des éléments de contexte, et puis je pense qu'il y a quand même des éléments importants qui interviennent dans l'émergence de technostresseurs, de technostress, c'est l'individu et l'organisation. Donc c'est Ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est peut-être une vision plus systémique, c'est-à-dire plus ouverte sur l'environnement, en disant que ce phénomène-là, qui a été étudié du point de vue de la technologie, du technostress, il y a des éléments extérieurs qui viennent moduler, qui viennent modifier un petit peu la donne et qui viennent apporter d'autres éléments, en tout cas d'explication, à l'émergence de technostress.
Donc on a des facteurs autres, exogènes, qui vont agir ou intervenir et modifier ou moduler ces résultats et donc finalement transformer finalement l'impact que pourraient avoir des situations sur le stress des individus ou dans l'organisation de systèmes qui feraient qu'ils seraient générateurs ou pas ou inhibiteurs de technostress. Au passage, Alain Cucchi, puisqu'on est dans une émission universitaire, j'en profite puisque vous parliez des modèles. Finalement, on est dans un modèle causaliste. Vous avez parlé de Descartes, l'approche cartésienne, la raison. Là, on commence à toucher du doigt ce qui pourrait s'apparenter aux théories ou à la théorie de la connaissance. Comment on approche la connaissance? Comment est-ce qu'on construit la connaissance? Un terme que l'on nommerait épistémologie et qui permet de construire peut-être de mieux comprendre. Est-ce qu'on pourrait aborder très rapidement ce qui va pouvoir faire qu'à un moment donné, on se pose la question autrement, notamment dans l'approche systémique.
Alors là, il faudrait faire plusieurs émissions à ce sujet. Alors, ce que vous abordez, c'est la question de l'épistémologie. Alors, c'est un terme un petit peu singulier. En fait, dit plus simplement, c'est la philosophie des sciences. Et en fait, dans ces approches-là, on se pose des questions sur finalement qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la connaissance. Et si je veux vraiment recentrer sur la notion de technostress, on nous a proposé un modèle explicatif simple en disant voilà les causes, voilà les effets. Du point de vue du manager, ça voudrait dire que dans toutes les situations, ben, on aura tout le temps, plus on augmente, plus la technologie est instable, plus il y aura de stress. Or, ce n'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une. Je suis évidemment beaucoup plus sensible à des approches qualifiées de systémiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais cette notion de systémique, c'est considérer les éléments comme un système. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'ouverture, il y a la notion d'émergence, il y a la notion d'interaction. Et tous ces éléments-là construisent et font, dans le cas du technostress, font émerger un phénomène qu'on appelle le technostress. Donc il y a effectivement un manque dans les approches classiques, on pourrait dire, que l'on pourrait qualifier de positiviste ou de causaliste, dans le sens où on a une vision qui est peut-être, dont on hérite, c'est plutôt on hérite d'un environnement qui vient des philosophies, enfin des sciences dites dures, c'est-à-dire que dans les sciences dures, les mathématiques, la physique, même cause produira toujours les mêmes effets. On identifie des relations, et d'ailleurs la méthode expérimentale, qui est le support à toutes ces approches-là, elle cherche justement à identifier, faire en sorte de tester qu'on ait tout le temps les mêmes causes et les mêmes effets, qu'on soit tout le temps capable d'associer les deux. Or nous, en sciences sociales, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je voudrais aborder le technostress en ouvrant un petit peu le champ, en se disant que ce n'est pas une approche causaliste qui est la plus pertinente, notamment pour le manager. Alors notamment parce que dans la situation qui nous occupe, finalement, le manager, le gestionnaire, le responsable d'entreprise, il voit le modèle que je lui ai proposé. Il dit bah, finalement, tout dépend de la technologie, moi je ne peux pas agir. Il y a des usages, à cause de la technologie, les gens travaillent plus, ils stressent plus. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? Donc finalement, ces modèles-là, ils sont simplificateurs, mais du coup aussi, ils occultent tous les leviers sur lesquels on peut travailler pour réorienter le phénomène ou voire diminuer le phénomène. Donc c'est un peu le sens de la présentation. Que je voudrais centrer sur les deux aspects, j'allais dire complémentaires, en tout cas les deux éléments de contexte majeurs, les aspects organisationnels et les aspects individuels.
Alors, Alain Cucchi, nous pouvons peut-être du coup parler du technostress et de l'organisation, puisque finalement il y a des dimensions dans l'organisation, dans les choix managériaux, dans les process qui vont être plus ou moins créateurs ou inhibiteurs de technostress, et cela a été étudié. Cela a été étudié et a construit un certain nombre de connaissances autour de ce sujet.
Donc, si on développe un petit peu ces deux aspects-là, les aspects organisationnels et individuels. Pour être clair, je vais travailler essentiellement sur deux modèles qui sont assez connus également dans la littérature sur le technostress, notamment sur les aspects de Technostress et organisation. Donc là, il y a un travail qui avait été développé par des auteurs, Raghunathan, Taravdar, un autre Raghunathan et Kyangtu, qui développe en fait, qui intègre la dimension organisationnelle. Et il part du principe que oui, effectivement, il y a des technostresseuses, c'est-à-dire des éléments qui favorisent l'émergence de technostress. Donc on va retrouver, donc c'est dans la partie supérieure ici, dans le modèle que je vous indique, on va retrouver ici, mais par exemple, techno-overload qui représente la surcharge de travail liée à la technologie. On voyait un petit peu comme Charlot dans les temps modernes, bah là c'était la chaîne qui nous amenait, qui amenait le travail aux travailleurs, bah nous maintenant c'est la technologie qui nous amène. Je pense que chaque salarié, quand il ouvre sa boîte aux lettres, il se dit, tiens, un message c'est un travail effectué, une tâche à effectuer, et puis ça s'accumule, ça s'accumule. Donc on a potentiellement de plus en plus de travail lié à cause. En tout cas, il y a une incidence de la technologie sur la charge de travail. Il y a aussi des éléments, mais ça, qui sont assez proches de ceux qui, et ils ont été repris par Yagari, puisque ce sont des travaux antérieurs. L'insécurité de la technologie, c'est-à-dire que le fait que la technologie va remettre en cause mon emploi, mes connaissances, ma compétence, ma place dans l'organisation. Donc, ce sont des éléments qui sont forts et qui, finalement, génèrent beaucoup de stress auprès des salariés. Il y a la techno invasion, c'est la partie qui concerne le fait que la technologie va générer globalement du conflit travail-famille, c'est-à-dire qu'elle va être associée à des éléments de je travaille chez moi. Alors, à l'heure actuelle, l'actualité fait que beaucoup de personnes travaillent à leur domicile, et c'est la technologie qui a permis ça. Mais c'est un phénomène qui a commencé bien avant la pandémie que nous connaissons. La technologie, un techno uncertainty, qui est en fait l'incertitude technologique, qui finalement, on pourrait traduire par la fiabilité. C'est-à-dire que c'est les technologies sont plus ou moins fiables. Elles vont être capables de générer des éléments, par exemple, on parlera de bugs, on parlera de résultats incohérents, mais ça peut être aussi parce que elle va être compliquée à mettre en œuvre. Et ça, c'est à ce moment-là la techno-complexity. Donc tous ces éléments-là, finalement, ils avaient été déjà, on l'a déjà décrit au moment où on a présenté les travaux de Yagari. Ce qui est un peu plus original dans ce travail-là, c'est la partie qui est à gauche, la partie latérale, qui est finalement ce que les auteurs ont appelé les technostress inhibitors. Ce sont finalement les facteurs, ce sont des facteurs organisationnels. C'est pour ça que j'ai rangé ça dans la partie technostress et organisation. Finalement, ce sont les leviers d'action du manager. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, avec ces facteurs-là, le manager va pouvoir agir. Alors, ce que nous dit ce travail de recherche, c'est qu'il nous dit, ben, dans le cas du technostress, il y aura une influence, on va pouvoir moduler, ou en tout cas modérer le technostress, notamment associé à trois éléments particuliers. Vous avez le technical support provision, c'est finalement le support technique, donc tout l'environnement technique que l'on peut rencontrer quand on a une difficulté. Est-ce qu'il y a une hotline? Est-ce qu'il y a un utilisateur plus qualifié dans l'équipe qui va pouvoir m'aider en disant maintenant, ben là, c'est tel problème, il est connu, tu peux le contourner de telle façon? Ou alors, donc c'est finalement tout le support technique organisationnel qui va être associé à l'utilisation de l'outil. Vous avez ce qu'ils appelaient la literacy facilitation, c'est la partie qui est plus liée à l'apprentissage, à la gestion des connaissances. Donc, dans quelles circonstances l'organisation va pouvoir former les utilisateurs? Est-ce qu'elle va pouvoir aider les utilisateurs à s'aider les uns les autres? Est-ce qu'elle va favoriser le partage de connaissances, le partage d'expériences? Ça peut être des guides de bonne pratique, ça peut être des intranets, mais en tout cas, on peut développer un écosystème, on pourrait qualifier d'écosystème, lié à la gestion des connaissances dans le domaine technique. Et enfin, on a le involvement facilitation, qui est finalement la capacité à intégrer, à accepter la technologie. Est-ce qu'on incite les gens à dire, ben, testez, de toute façon, ce n'est pas bien grave, vous allez faire l'expérience, vous verrez qu'il y aura des éléments positifs, des éléments négatifs, mais vous allez vous approprier la technologie. Et est-ce que ça, c'est intégré dans les pratiques de gestion, en ayant justement une absence de jugement de valeur, en disant, ben, on ne va pas l'ostraciser parce qu'un individu n'a pas été capable de maîtriser telle ou telle technologie, il fait une expérience. Il réussit, il réussit pas, mais en tout cas, il est capable de savoir maintenant de quoi il va pouvoir, comment il va pouvoir utiliser cette technologie. Et ces auteurs montrent que finalement, tout cela va plutôt inhiber le stress et notamment savoir des incidences sur le salarié dans l'organisation. Donc c'est ce qui est associé ici dans la partie, j'allais dire, plus organisationnelle finalement. Ces deux éléments, on voit bien notamment sur la satisfaction au travail que le technostress, les facteurs de technostress vont avoir un effet, vont diminuer la satisfaction au travail. Et inversement, les technostress inhibiteurs vont augmenter la satisfaction au travail. Donc on a des rôles différents et on se rend bien compte que finalement les technostress, on peut mettre entre guillemets des pare-feux, des contre-feux, des actions organisationnelles qui vont moduler la création de technostress. Et alors, sur la suite de la deuxième partie des effets organisationnels, on pourrait dire, des technostresseurs en général, qu'ils soient inhibiteurs ou créateurs, c'est que finalement, ça va avoir un effet sur l'engagement dans l'organisation. Est-ce que l'individu va s'engager dans l'organisation? Est-ce qu'il va être. Il va se dire, il va se reconnaître dans l'organisation, est-ce qu'il va passer, il va consacrer du temps, des ressources, donc finalement, est-ce qu'il va s'investir? Et on se rend compte que là aussi, ces deux aspects-là ont des effets. Évidemment, les technostress inhibiteurs vont renforcer l'engagement du salarié. Ce qui est important, c'est ce qu'on cherche surtout à faire. Donc là, l'intérêt, je dirais, principal de ce modèle, c'est qu'on se rend compte que globalement, l'environnement de travail, l'organisation, influence l'émergence de technostress. Et on a des. Il a fallu que je choisisse dans l'ensemble des travaux qui traitent de cet aspect-là. Mais on se rend compte que le manager, le cadre, d'une certaine façon, ou le responsable d'équipe, ou le chef d'entreprise, il a des leviers, d'une certaine façon, qui vont lui permettre de. Même s'il a une technologie qui peut générer du technostress, il a aussi des moyens pour gérer cela, pour manager cela. Et ça, c'est important, parce que nous sommes un management, on est plutôt dans la science de l'action, c'est-à-dire que tous nos travaux visent justement à proposer des actions managériales. Donc proposer en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir des résultats de ce travail-là, de recherche, voilà ce que vous pouvez faire. Ben là, concrètement, on dit aux managers, ben vous créez un environnement support technique, créez des conditions pour mieux gérer les connaissances, pour favoriser les échanges d'expériences, des échanges de connaissances. Faciliter l'expérimentation. Donc tout cela, tous ces éléments-là, ce sont des éléments tangibles qui permettent au manager finalement de mieux gérer ce phénomène qu'on qualifie de technostress.
Alors, Alain Cucchi, bon, c'est extrêmement intéressant, hein, puisqu'on voit que ce facteur et ses inhibiteurs, notamment, ont une influence importante sur la satisfaction au travail et donc indirectement sur l'engagement dans l'organisation. Donc, cette organisation, en tant qu'environnement, doit effectivement proposer ou peut proposer une amélioration de ces facteurs-là dans son organisation intrinsèque pour que, eh bien, le salarié ou l'acteur dans l'organisation, eh bien, puisse être mieux engagé au service de l'activité de cette organisation. Alors, l'individu maintenant, Alain Cucchi, l'individu, probablement il y a d'autres aspects du phénomène, notamment plus liés à l'individu, qui va pouvoir aussi, peut-être par ses pratiques, son comportement, ses postures, faire en sorte d'être moins sujet, à ce technostress.
Oui. En fait, les travaux précédents montrent que l'environnement, je veux dire l'environnement du salarié, influence le technostress qui est éprouvé, qui est ressenti par le salarié. Mais le salarié, il a un rôle, c'est-à-dire que tout dépend finalement de la façon dont il va appréhender son environnement et dont il va appréhender le phénomène qui va le stresser. Donc c'est là, je vous propose un autre modèle qui est plus dans la philosophie que j'ai évoquée précédemment, que l'on peut qualifier de systémique ou d'interactionniste. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'un individu, il est d'abord là pour interpréter un phénomène. Donc vous avez ici, dans ce modèle-là, c'est un modèle de Baudry et Pinsonneau, qui est sont deux chercheurs nord-américains qui sont québécois, que je salue au passage, s'ils nous écoutent, mais je n'en suis pas
Voilà, c'est
persuadé.
l'occasion,
C'est
Alain, il
l'occasion.
vous écoute, c'est certain.
Donc nous avons dans ce travail-là, il propose une perspective interactionniste. Alors d'abord, à gauche, nous avons l'élément, j'allais dire, l'événement qui va déclencher du stress, ou du technostress, ou en tout cas qui est surprenant. Donc c'est dans le cas du technostress, donc ils ont appelé ça IT events, donc c'est un événement lié aux technologies, mais de façon générale, on a quelque chose qui va venir nous stresser ou en tout cas nous demander de réagir. Et il s'inspire de travaux de Lazarus et Folkman pour nous dire mais comment s'opère l'interprétation? Comment est-ce que l'individu interprète un phénomène qu'il va ressentir ou qu'il va observer? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose une lecture en deux temps. Il nous propose d'abord un premier niveau d'interprétation qui est ici. Ils appellent ça le primary appraisal, qui dit finalement cet événement, l'individu va se dire, je le perçois, je le ressens. Comment est-ce que j'interprète? Est-ce que c'est plutôt une menace ou est-ce que c'est plutôt une opportunité? C'est intéressant, c'est-à-dire c'est la nature de l'événement. Quelles sont les conséquences de cet événement-là? Est-ce que les conséquences vont être plutôt favorables? Auquel cas, c'est plutôt une opportunité, on parle de challenge également. Ou est-ce que les conséquences de l'événement, je vais les percevoir me concernant plutôt comme étant défavorables? Auquel cas, je vais les percevoir comme plutôt une menace. Donc, c'est la nature qualitative des conséquences qui sont jugées par l'individu. Donc, ça, c'est la première analyse de la première interprétation. Et la deuxième interprétation, qui est aussi en interaction à la première, c'est sur ce qu'ils appelleront le secondary appraisal, qui est quel est mon niveau de contrôle sur l'événement, sur ce qui se passe. Alors le niveau de contrôle, c'est il y a un événement, je peux avoir finalement, est-ce que je vais être capable de mobiliser des ressources pour gérer cet événement? Alors les ressources, c'est un terme générique, c'est un terme très large, ça peut être des ressources individuelles. Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que physiquement je suis apte à réagir par rapport à l'événement stressant? Donc l'ensemble de ressources, ça peut être aussi des ressources organisationnelles. Est-ce que l'institution me donne le niveau de responsabilité, de pouvoir? Est-ce qu'il me donne les moyens financiers? Est-ce qu'il me donne les équipes? Est-ce qu'il me donne... Donc il y a l'interprétation également qu'a l'individu sur son niveau de contrôle sur l'événement. Et finalement, tout cet ensemble-là va constituer, si on croise les deux, quatre grands cadrans. Alors, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais quatre grands cadrans qui caractérisent finalement la façon dont on appréhende la situation. Ça peut être globalement un lien entre opportunité et menace. L'événement, j'y perçois des conséquences favorables ou défavorables. Et puis surtout, est-ce que je suis capable ou non de contrôler la situation? Ce qui résulte de tout ça, c'est que finalement, là aussi on est en sciences de l'action, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on va avoir des comportements adaptatifs différents par rapport à l'interprétation. C'est-à-dire que selon les situations, ben, je vais avoir finalement des comportements assez différents. Or, les auteurs ont parlé de dans la situation où je perçois plutôt une opportunité. Si je suis dans une situation où j'ai un niveau de contrôle élevé, ben je vais essayer de mettre en place, de changer mes méthodes de travail, je vais essayer d'en bénéficier au mieux, c'est-à-dire que je vais chercher à maximiser le gain que je peux avoir à titre personnel, à titre collectif, à titre d'entreprise, mais d'une certaine façon, je vais mettre en place des stratégies qui vont me permettre d'optimiser le bénéfice que je perçois ou l'avantage que je peux en percevoir. Ça, c'est si j'ai un niveau de contrôle élevé. Si je n'ai pas de contrôle élevé, finalement, je suis plus dans une situation d'opportunisme, c'est-à-dire que, tiens, il y a des éléments positifs, je vais pouvoir en retirer certains bénéfices, mais finalement, si ça se présente, tant mieux. Mais si ça ne se présente pas, ce n'est pas bien grave, parce que de toute façon, c'était du bonus, on pourrait qualifier ça en termes de bonus. Donc ça, c'est dans la partie haute, c'est-à-dire que je considère que c'est une opportunité, l'événement est perçu comme étant potentiellement bénéfique. L'autre situation, qui est ici, dans la partie inférieure, c'est finalement de se dire qu'on a également, je considère ça comme étant une menace. Qu'est-ce qui se passe si je considère ça comme étant une menace? Je me dis, est-ce que j'ai les moyens de contrer cette menace? Est-ce que j'ai les moyens de contrôler, de juguler cette menace? Donc là, on est dans le premier item, disturbance handling, c'est-à-dire la gestion de la perturbation, de l'événement perturbateur. Je vais être capable de contrôler, même si ça m'est défavorable, les conséquences ne vont pas trop m'atteindre parce que je vais être capable de contrôler la situation. Et puis dernier élément, c'est ce qu'on appellera la situation qu'on pourrait qualifier quand même la plus défavorable pour l'individu, c'est il perçoit ça comme une menace et puis ça ne dépend pas de lui. Il n'a pas de niveau de contrôle. Donc finalement, il est vraiment dans la situation de subir l'événement. Et donc, ce dernier élément, les auteurs proposent une stratégie de self-preservation, c'est-à-dire, je vais être capable je vais chercher finalement à me préserver en tant qu'individu. Là où il y a aussi globalement un intérêt sur l'ensemble de ces stratégies, c'est qu'en fait, les stratégies que je viens d'évoquer n'ont pas le même champ finalement, n'ont pas le même focus. Quand on regarde les deux premières stratégies, elles sont ce que les auteurs qualifient de orientées problème. C'est-à-dire que ce sont des stratégies qui s'attaquent aux problèmes et qui sont dans un processus de construction, de décision. Donc le processus, finalement, il va faire face à la situation, j'allais dire, perturbante, et on va chercher à résoudre au travers de nos comportements, de nos décisions, à résoudre un problème. Donc on est dans l'action. Dans la deuxième situation, si on regarde ici, on est plutôt dans l'émotion. C'est vraiment les deux, c'est lié aux travaux de Bourdieu et Prinsenon, mais également d'autres, qui montrent que on se rend compte que quand on est capable de faire face, on est dans la résolution de problèmes et d'actions, mais quand on n'est pas capable, finalement, on se rend compte qu'on est dans la gestion de l'émotion. Et finalement, les éléments, les stratégies qui sont mises en place vont être une stratégie de gestion des émotions, avec essentiellement des éléments qui sont centrés sur soi. Finalement, comment je vais me préserver? Peut-être que je vais m'isoler, peut-être que je vais avoir une stratégie de fuite, je vais fuir le problème parce que je sens qu'il va me remettre en cause ma santé psychique, physique, mentale. Donc je vais finalement m'isoler ou je vais éviter le problème. C'est une forme stratégique, c'est une stratégie de fuite. Donc on se rend compte que les processus d'adaptation, selon la façon dont on interprète l'événement, je vais plutôt avoir tendance à attaquer le problème, à résoudre le problème. Je vais être dans l'action ou au contraire, je vais me dire, oula, il va falloir que je gère mes émotions et je vais plutôt essayer de travailler sur moi. Alors, dans un cas, on travaille sur l'extérieur, dans l'autre cas, on travaille sur soi. Et du coup, on se rend compte que finalement, l'élément le plus important, c'est que ce qui se passe, le stress, le technostress, c'est aussi une question d'interprétation. C'est pour ça que nous ne sommes pas égaux devant le stress et devant le technostress. Peut-être que là, c'est finalement ce qu'il y a quelque chose à retenir de ce modèle, mais là, c'est un niveau individuel. C'est si on sent un niveau de stress monter, on peut recadrer calmement la situation en se disant, bon, objectivement, les conséquences sont positives ou négatives. Comment je le perçois? Deuxièmement, est-ce que j'ai un niveau de contrôle? Donc, je peux déjà recadrer l'événement, relativiser l'événement. Et finalement, c'est une aide pour l'individu, pour le salarié, en situation stressante, pour mieux gérer sa situation stressante. Alors, ce que nous disent enfin, parce que là, on est vraiment dans des modèles, à mon sens, systémiques, et je conclurai pour ce modèle-là là-dessus, c'est qu'en fait, ici, vous regardez, on a une flèche. C'est-à-dire qu'ici, globalement, les stratégies mises en œuvre vont influencer nos représentations. C'est-à-dire qu'à force, au fur et à mesure, si par exemple, on réussit dans la mise en œuvre de stratégies, on va pouvoir, d'une certaine façon, adapter nos représentations. Idem sur les résultats, ce que les auteurs appellent les résultats qui sont liés aux différentes stratégies. On a des éléments qui sont liés au niveau de performance, d'effectivité, des conséquences qui sont liées à la minimisation des conséquences, notamment des conséquences négatives. Donc ça, c'est ici. Oula, excusez-moi, je suis allé trop vite. Et enfin, on a également le fait qu'on va restaurer ou non une stabilité émotionnelle. Est-ce qu'on est capable de. Non pas, on n'a pas forcément résolu le problème, mais en tout cas, on est capable de prendre du recul et de stabiliser émotionnellement la situation. Et on se rend compte que ces stratégies-là, là, effectivement, elles ont effectivement, ici, si on regarde la flèche, elles ont. Il y a un processus de rétroaction. On est dans des dynamiques. On n'est pas dans des causes-effets. C'est-à-dire que ce qu'on réussit permet de changer notre regard sur l'événement. C'est parce que j'ai réussi la dernière fois à faire face à tel événement que maintenant, mais finalement, j'ai un autre regard. Et c'est ça l'important. C'est-à-dire qu'on est de la transaction, de l'interaction avec des événements qui sont plus ou moins stressants. Voici en tout cas les aspects individuels.
Très bien. Alors, Alain Cucchi, le temps, comme d'habitude, hein, passe très très vite et nous voilà déjà à la fin de cette émission. Bon, je pense que c'est clair que ce schéma, hein, par rapport au premier schéma d'Ayagari présenté sur la première émission, a l'intérêt d'être vraiment, de montrer ces boucles de rétroréaction, cette approche systémique qui fait que petit à petit, l'interprétation, l'évolution, le processus d'attribution de sens, comme dirait notre collègue Jérôme Gardoddy dans ses travaux, eh bien,
c'est Carl Weick, sense-making.
Sense-making, qui fait que, eh bien, à un moment donné, on va évoluer aussi au travers des émotions. Cela étant, le processus de préservation, self-preservation, à un moment donné, fait que la personne, l'acteur, peut aussi, dans le schéma, sortir. Il y a un moment où il peut complètement sortir du système pour se protéger.
Pour se protéger.
Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent.
On l'observe dans les organisations, tout à fait.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure, du coup, puisque la conclusion, naturellement, va venir
La conclusion, c'est finalement, on se rend compte de tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une part organisationnelle, il y a une part individuelle. On se rend compte qu'on met chacun en place des processus d'interprétation et qu'on met en place des stratégies, volontairement ou involontairement, sciemment ou inconsciemment. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes interprétations. Donc on pourrait, et c'est ce que je vous propose de faire par la suite, c'est finalement de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que les individus n'ont pas les mêmes interprétations. Qu'est-ce qui rend compte de la spécificité de certains individus? Pourquoi est-ce que certains individus vont interpréter tel événement de façon positive et d'autres vont l'interpréter de façon négative? Donc on a encore beaucoup de choses à explorer sur le processus même d'interprétation des événements, et c'est ce que je vous propose de faire la prochaine fois.
Vaste menu, Alain Cucchi. Alors ça nous renverra aussi aux questions d'épistémologie, positivisme, constructivisme. Ce sont des sujets qu'on abordera, j'imagine, dans d'autres émissions.
Dans d'autres émissions, voilà.
C'était le mot de la fin. En tous les cas, merci beaucoup. C'était, je pense, très intéressant. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien à la chaîne de l'Université numérique de La Réunion, Alain Cucchi, à très bientôt pour un troisième numéro sur cette série Stress et Technostress.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.